VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition du mardi 3 mars 2015. À la une ce soir.
Côte d'Ivoire, 10 ans de prison requis pour Simone Gbagbo, épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo, jugée pour atteinte à la sûreté de l'État.
J'estime que les avocats de l'État de Côte d'Ivoire sont dans leur droit. C'est leur rôle, en tant que partie civile, de demander des dommages et intérêts.
Dadji Rodrigue, avocat de Mme Gbagbo.
Boko Haram perd du terrain dans le nord-est du Nigeria. Une ville a été reconquise par les soldats tchadiens.
La Guinée, la Sierra Leone et le Liberia réclament un plan Marshall pour aider leur pays à se redresser après l'épidémie d'Ebola.
Au Congrès américain, le Premier ministre israélien dit non à l'accord nucléaire en négociation actuellement avec l'Iran.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord le journal.
Nouveau développement dans l'affaire Simone Gbagbo, accusée d'atteinte à la sûreté de l'État. Le procureur a requis ce mardi 10 ans de prison contre l'épouse de l'ancien chef de l'État ivoirien, Laurent Gbagbo. Hier, le parquet avait déjà requis contre Mme Gbagbo et ses 82 co-accusés une amende de 2000 milliards de francs CFA, soit près de 3 milliards d'euros, comme dommages et intérêts. Écoutons la réaction d'un des membres de sa défense, Maître Dadji Rodrigue.
J'estime que les avocats de l'État de Côte d'Ivoire sont dans leur droit. C'est leur rôle, en tant que partie civile, de demander des dommages et intérêts. Maintenant, est-ce que ces dommages et intérêts sont fondés? La bonne question. Moi, j'estime que les infractions pour lesquelles mes clients sont poursuivis là ne sont pas du tout constituées. Ça, c'est la première des choses. Donc, à partir du moment où ces infractions ne sont pas constituées, ils n'ont pas à pouvoir indemniser l'État de Côte d'Ivoire d'un quelconque montant. Et maintenant, en ce qui concerne les dommages et intérêts demandés par l'État de Côte d'Ivoire, j'estime que c'est un peu exorbitant, sinon absurde. Ça ne repose sur aucune base. En plus, on demande que les 2000 milliards soient payés de façon solidaire par les différents accusés, qui ne sont pas co-accusés ou complices des infractions pour lesquelles ils sont poursuivis. Ils sont poursuivis individuellement, chacun pour sa part, pour les mêmes infractions. Mais il s'offre à nous juste un seul choix. C'est juste de plaider demain pour, en tant qu'avocat de la défense, la non-culpabilité de nos clients. En précisant bien que le parquet général reconnaît qu'il n'y a aucun élément de preuve à l'encontre de nos clients.
Maître Dadji Rodrigue, joint par Salwa Jafari.
Les trois pays les plus touchés par Ebola ont appelé ce mardi la communauté internationale à lancer un plan Marshall pour aider à leur redressement économique et gagner la guerre contre l'épidémie. C'était lors d'une conférence à Bruxelles visant à coordonner les combats encore à livrer contre Ebola. Jacques Aristide.
Le chef de l'État guinéen, Alpha Condé, a indiqué que la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone vont présenter un plan régional lors d'une réunion en avril de la Banque mondiale et du FMI, tel que le rapporte à l'AFP. Il a également dénoncé des retards en matière des aides promises par les pays donateurs, d'autant que sur les 4,9 milliards de dollars engagés contre la maladie, 2,4 ont été déboursés. Pour la présidente libérienne Hélène Johnson-Sirleaf, l'impact d'Ebola sur les économies concernées a été profond et cela impose des plans et stratégies de redressement pour les accompagner, l'équivalent, dit-elle, d'un plan Marshall sur le modèle du plan américain de reconstruction de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale.
Le Haut Commissariat aux réfugiés annonce aujourd'hui que la dernière vague d'attaques des combattants islamistes de Boko Haram au Nigeria a entraîné la fuite en quelques jours vers le Cameroun voisin de 16 000 personnes. Le HCR dit collaborer avec le gouvernement camerounais pour reloger les rescapés le plus rapidement possible. Les grandes lignes du rapport du HCR avec Salwa Jafari.
L'hémorragie semble de plus en plus aiguë. Des milliers de personnes jetées sur la route de l'Exode. 16 000 sont déjà arrivées à destination tout au long de la frontière avec le Cameroun. À Makari, Logone, Birni, Fotokol, au sud du lac Tchad. Sur place, le HCR tente tant bien que mal de trouver des logements aux réfugiés. Sur le site de transit Kousseri, par exemple, à 90 km de la frontière au nord de Manao. Sur le terrain aussi, le gouvernement camerounais, le Programme alimentaire mondial et autres organisations fournissent une assistance d'urgence. Les convois de déménagement de la frontière à Kousséri vont commencer demain. Rappelons que le Cameroun n'est pas la seule destination de ces victimes de guerre. Plus de 100 000 personnes ont trouvé refuge au Niger dans les deux dernières années et quelques 18 000 ont choisi le Tchad depuis janvier.
Le chef de milice congolais, Thomas Lubanga, devra personnellement indemniser ses victimes. C'est ce qu'a décidé la chambre d'appel de la Cour pénale internationale, citée par l'AFP. Lubanga a déjà été condamné à 14 ans de prison pour crime de guerre, pour enrôlement de mineurs dans le conflit qui a déchiré l'Est de la République démocratique du Congo en 2002-2003.
Menace de grève générale jeudi au Burundi. La menace est brandie par un collectif contre la vie chère qui demande la baisse du prix de l'essence, le renoncement à la nouvelle taxe sur les communications. Le président a appelé les membres du collectif à sursoir à ce mouvement de grève et à participer ensemble à la recherche d'une solution pour tous.
Conflit au Soudan du Sud, le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar se sont rencontrés dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Des négociations dites de la dernière chance puisque les deux rivaux ont jusqu'à jeudi pour trouver un accord de paix.
Et dans le même temps, les Nations Unies ont adopté une résolution qui prévoit des sanctions contre les belligérants sud-soudanais. D'après l'AFP, le Conseil de sécurité se donne la possibilité de geler les avoirs de ceux qui menacent la stabilité du pays, se rendent coupables d'exactions ou entravent l'aide humanitaire et leur interdire de voyager.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou vient de prononcer son discours tant attendu devant le Congrès américain. L'exercice était attendu pour évoquer un possible accord sur le nucléaire iranien que Washington veut conclure avec Téhéran à la fin du mois. Nicolas Pineau.
Chaleureusement applaudi, le Premier ministre israélien s'en est pris directement au régime iranien dénonçant les ayatollahs qui menacent de détruire Israël. Netanyahou a demandé de se lever ensemble pour stopper l'Iran, car selon lui, le régime du président Hassan Rouhani et l'État islamique représentent la même menace, un islam violent qui veut diriger le monde. Raison pour laquelle l'accord avec l'Iran ne doit pas être signé selon Benjamin Netanyahou.
If the deal now being negotiated...
Si le deal négocié est accepté, il ne va pas empêcher l'Iran, mais va garantir que l'Iran va avoir plus d'armes, affirme Netanyahou, qui explique que les sanctions actuelles n'ont pas marché. Pour Netanyahou, le possible accord négocié actuellement à Genève est très mauvais. Selon lui, les inspections de l'AIEA ne sont pas suffisantes pour interrompre le programme nucléaire militaire iranien qui permettrait à Téhéran d'avoir la bombe nucléaire. Ce discours était prononcé à l'invitation des Républicains au Parlement, ce qui a provoqué la colère de la Maison-Blanche. Conséquence, une cinquantaine de parlementaires démocrates ont boycotté cette intervention.
Alors que Benjamin Netanyahou réaffirmait au Congrès américain son opposition à l'accord actuellement en négociation entre l'Iran et les puissances mondiales, le secrétaire d'État John Kerry et son homologue iranien Javad Zarif s'acharnaient en Suisse à forger une entente sur l'avenir du nucléaire iranien. L'Iran et le groupe 5+1 se sont imposés le 31 mars comme date limite pour un accord politique et le 1er juillet pour l'accord final.
À Moscou, les proches et partisans de Boris Nemtsov, abattus vendredi soir près du Kremlin, lui ont rendu un dernier hommage. L'opposant de 55 ans, farouche critique du président Vladimir Poutine, devait être inhumé ce mardi dans la capitale russe. Monsieur Poutine a promis une enquête sérieuse sur ce meurtre que plusieurs activistes de l'opposition considèrent comme un acte de représailles. Des dignitaires étrangers, dont l'ambassadeur américain John Taft et l'ancien premier ministre britannique John Major, ont assisté aux funérailles de Boris Nemtsov.
En Irak, l'offensive de l'armée pour la reconquête de Tikrit, bastion des djihadistes de l'État islamique, s'est poursuivie pour une troisième journée. Quelques 30 000 soldats irakiens et combattants kurdes avancent vers la ville rebelle, lieu de naissance de l'ex-dictateur Saddam Hussein. Selon les agences de presse, cette offensive a aussi le soutien de l'Iran. Rappelons que Tikrit est aux mains des djihadistes depuis juin dernier.
Selon la Maison-Blanche, le président Barack Obama doit participer aujourd'hui avec des dirigeants européens, dont le français François Hollande, l'allemande Angela Merkel et le britannique David Cameron, à une vidéoconférence consacrée à la crise en Ukraine et à la sécurité mondiale. Le premier ministre italien Matteo Renzi et le président du Conseil européen Donald Tusk devaient également participer à ces entretiens à huis clos.
Hillary Clinton a-t-elle violé une loi fédérale alors qu'elle était secrétaire d'État ? l'éventuelle porte étendard sur le parti démocrate à la présidentielle de 2016 aux États-Unis, s'est servi de son compte email privé pour mener des activités officielles au département d'État. Selon le New York Times, qui a publié l'information, les assistants de Mme Clinton n'ont rien fait pour préserver ses messages personnels sur les serveurs du gouvernement tels que requis par la loi. Selon le Times, Hillary Clinton a utilisé uniquement son compte privé durant ses 4 ans à la tête de la diplomatie américaine. Une affaire à suivre donc.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce soir avec Nathalie Barge.
Lors d'une conférence sur Ebola organisée par l'Union européenne à Bruxelles ce mardi, les dirigeants des 3 pays africains les plus touchés par l'épidémie ont appelé la communauté internationale à lancer un plan Marshall pour redresser leurs économies, indique Jeune Afrique. La présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf, le président sierra-léonais Ernest Bai Koroma et le président guinéen Alpha Condé sont venus faire le point sur la situation dans leurs pays respectifs. Ce 3 mars est la journée mondiale de la vie sauvage qui a été instituée par l'ONU l'an dernier en référence à la Convention internationale sur le commerce des espèces menacées d'extinction. Le trafic des espèces de la faune et de la flore est estimé à 19 milliards de dollars. À cette occasion, Juan Carlos Vasquez, porte-parole de CITES, rappelle que le principal problème, c'est la corruption.
Il nous faut utiliser les mêmes outils qu'on utilise pour combattre le trafic des drogues et le trafic des humains. Ces mafias ont un pouvoir corrupt important. C'est un des sujets majeurs qu'on essaie d'aborder aujourd'hui. Comment ce problème affecte aussi les moyens de subsistance des communautés rurales.
Le ministre du Plan et du Développement ivoirien, Albert Mabri Touakes, recevait des ambassadeurs ce mardi à Abidjan en vue de les sensibiliser sur la prochaine conférence sur l'émergence de l'Afrique qui se tiendra du 18 au 20 mars en Côte d'Ivoire. Sont attendus à l'événement des chefs d'État et de gouvernement, des experts et des institutions multilatérales.
La Minute Éco, merci Nathalie Barge.
On passe au sport avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Le CO Sport perd son entraîneur.
Rigo Gervais et le club de San Pedro se séparent d'un commun accord après l'élimination du triple champion ivoirien en Ligue africaine des champions. Rigo Gervais paie le mauvais début de saison des portuaires avec un effectif fortement remanié, voire décapité comme on le dit en Côte d'Ivoire. Première réaction de Rigo Gervais suite à son limogeage en exclusivité sur VOA Afrique.
Je confirme. Je suis déçu. C'est à Bamako que ça s'est passé. J'ai parlé aux voisins et aux autres dirigeants. Voilà, je pense qu'on a tout arrêté à l'amiable et que voilà, chacun va continuer son aventure. Bon, je pense qu'on était à un nouveau stade où j'étais en train de préparer une nouvelle équipe, puisque j'ai perdu 9 éléments. 9 éléments. Hein. Les nouveaux qui sont arrivés n'ont pas encore réussi à passer. Donc, tous amis ensemble, on ne pouvait pas avoir une équipe à la hauteur de celle de l'année dernière. C'était un nouveau cycle, il fallait être patient. Mais je pense que le climat ne permet plus de travailler parce qu'il a fait de méfiance, il n'y a plus de confiance et puis il y a trop de tensions inutiles. J'ai décidé de partir et puis de laisser la place à quelqu'un d'autre qui aura cette confiance-là des dirigeants et pour pouvoir continuer le travail.
Rigo Gervais, ex-entraîneur du CO Sport San Pedro, une interview à retrouver en intégralité sur voaafrique.com.
Autre départ, moins polémique cette fois, celui de Copa Barry qui tire sa révérence.
À 35 ans, le gardien ivoirien aux 85 sélections met un terme à sa carrière internationale. Après avoir donné la victoire aux éléphants en finale de la CAN en Guinée équatoriale, le gardien de Lokeren a écrit sur sa page Facebook que même les bonnes choses ont une fin.
Et l'Égypte a un nouveau sélectionneur.
La fédération égyptienne a désigné l'Argentin Hector Cuper. À 59 ans, connu pour avoir entraîné notamment le FC Valence et l'Inter de Milan, Cuper succède à Shoki Garib sur le banc des Pharaons.
La NBA, championnat de basketball nord-américain.
Et Golden State qui a subi une défaite face à Brooklyn 108-110, la troisième en 8 jours pour les Warriors. De son côté, Toronto a renoué avec la victoire après 5 défaites consécutives. Les Raptors se sont imposés à Philadelphie 114-103. Les autres résultats de la nuit, Miami domine Phoenix 115-98. Les Clippers s'imposent à Minnesota 110-105. Enfin, la Nouvelle-Orléans qui perd face à Dallas 93-102.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas Pinault.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Urbain Dorcil et Morgane Guerrier en votre compagnie. Place au dossier du jour. Et Morgane, on va parler des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Oui, l'Afrique continue d'être, avec l'Asie et l'Amérique latine, un marché attractif pour les télécommunications. Au Congrès mondial de la téléphonie mobile, qui se tient à Barcelone, les fabricants de smartphones proposent plusieurs modèles bon marché et les compagnies télécom et Internet multiplient les offres de services à coût abordable. Timothée Donangmaï a recueilli la réaction de Soko Waza Théophile, un spécialiste des TIC à Abidjan.
On était déjà parti des desktops déjà au départ. Maintenant, les gens se sont habitués aux laptops. Maintenant, ils sont sous les smartphones. La population, même les plus jeunes, même dans les collèges, les lycées, les étudiants, chacun a son téléphone mobile. Et donc, ils font des recherches à partir de là. Ils sont en connexion, en fait, avec l'extérieur. Ils ont des relations à gauche, à droite. Ils sont en train de travailler beaucoup sur les sites de contact tels que Facebook, Skype, tout ce qui est communication par Internet qui revient moins cher tels que WhatsApp et autres. Donc au jour d'aujourd'hui, il faut dire que les jeunes sont vraiment des grands consommateurs. Donc en tout cas, je pense que la consommation n'est pas en grandissant. Hein.
Quel va être l'impact, selon vous, de l'arrivée sur le marché des smartphones moins chers?
Ça va permettre à la population qui n'a pas assez de revenus d'avoir accès à ces smartphones-là et à ces solutions moins chères. Donc ça permettra à la grande majorité d'avoir accès.
Au plan de la conception et même de la fabrication des nouvelles technologies, quelle est la situation en Côte d'Ivoire?
Il n'y a encore rien qui est fait. La majorité des équipements sont importés d'Europe ou d'Asie, majoritairement de Chine. Sur place, il n'y a pas de construction. Par contre, ce que les opérateurs locaux font, chacun travaille pour avoir son propre réseau pour donner le jus Internet. Donc nous, par exemple, qui sommes dans le domaine des télécoms, on s'arrange à installer des hotspots, à prendre des équipements avec tel opérateur pour couvrir une zone de plus en plus large. Mais nous ne sommes pas encore en mesure de construire nous-mêmes des équipements. Donc on n'a pas encore d'équipementier en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, il n'y a pas encore d'équipementier. On ne monte même pas les ordinateurs. On commande encore les ordinateurs de l'extérieur. Donc on commande tout de l'extérieur, voilà.
Voilà, c'était Soko Waza Théophile, un spécialiste des TIC, joint à Abidjan.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, plein feu sur le problème d'accès à l'électricité en Afrique. Comment en êtes-vous affecté dans vos pays respectifs? Vos témoignages sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Retour ce soir sur le projet d'accord paraphé par le gouvernement malien et les groupes armés du Nord Mali. Ce document prend en compte les préoccupations essentielles des Maliens, de l'avis du ministre des Affaires étrangères du Mali qui était à Alger pour les négociations. À son retour à Bamako hier, il a animé une conférence de presse avant de souhaiter que le document soit signé sans délai. Kassim Traoré.
Le chef de file de la délégation malienne a fait savoir qu'il y a eu un compromis avec les groupes armés. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères.
Un compromis, pas une compromission. Un compromis qui permette aux Maliens de s'engager dans un cadre qui leur permettra de retrouver la paix, la sécurité, l'entente, la réconciliation nationale, afin de permettre au peuple tout entier de se dédier à ce qui est important pour nous, c'est-à-dire les questions de développement économique, social.
Permet, selon le ministre, d'aller de l'avant, car le document n'est n'est pas encore signé.
L'accord de paix lui-même, qui n'est pas encore signé, il est juste paraphé dans le sens, ça veut dire que le document, il est gelé. Il n'y a plus aucune modification possible à apporter à ce document, jusqu'à la signature que nous souhaitons qu'elle intervienne d'ici la fin de l'année, ici au Mali. Donc, c'est indispensable pour aller vers la paix. Mais un accord n'est pas suffisant pour faire la paix. C'est pourquoi il faut voir cette étape avec beaucoup d'humilité et de réalisme en comprenant que c'est juste une étape dans le processus.
En paraphant le projet d'accord d'Alger, le Mali a pensé aux populations qui souffrent dans les camps des réfugiés et au déploiement de son armée sur l'ensemble du territoire.
Ce n'est pas parfait, mais c'est ce qui était possible en ce moment précis au regard du contexte dans lequel nous nous trouvions dans cette négociation. Si nous avons un accord, cet accord permet aussi de répondre à la souffrance des populations qui sont aujourd'hui dans la détresse, de pouvoir aider l'armée à assister les services de base pour pouvoir vraiment se déployer dans tous les espaces du pays pour pouvoir atténuer la souffrance des gens.
En acceptant de prendre part au pourparlers, les Mali pensaient qu'ils ne pouvaient pas tout gagner.
Sadsi rappelait encore une fois que nous partons donc dans une négociation, pas avec l'état d'esprit de rafler tout, mais nous essayons d'abord de sauvegarder l'essentiel et en plus de l'essentiel de voir qu'est-ce qu'on peut obtenir d'autre qui nous amène le maximum de confort avec les limites liées à cela. Mais le document que nous avons, nous pensons que ça prend cela à charge.
Actuellement, la phase de négociation des pourparlers est terminée. Il reste d'autres étapes, comme nous l'explique Abdoulaye Diop, chef de file de la délégation malienne.
Le paraf met fin à la phase de négociation. Ensuite interviendra la signature et ensuite suivra la phase de la mise en œuvre qui va être encore beaucoup, beaucoup plus difficile et complexe que la phase juste de négociation parce qu'il va falloir délivrer sur les résultats, sur les engagements qui ont été pris. Et cette fois-ci avec la communauté internationale qui sera là, vigilante par rapport aux engagements qui ont été pris par les uns et les autres.
Le souhait du Mali est que le document paraphé soit signé le plus rapidement que possible. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Un an après la disparition du vol 370 de la Malaysia Airlines, peu après son décollage, l'incertitude plane toujours sur le sort de l'appareil. On fait le point avec Camille Gros-Didier.
Les recherches pour retrouver les restes de l'appareil ont duré des mois, couvrant plus d'un million de kilomètres carrés dans le sud de l'océan Indien. Elles n'ont rien donné. Celles menées dans une zone moindre, là où les experts pensent que l'avion s'est peut-être abîmé, n'ont pas abouti pour l'instant et devraient s'achever en mai. En février, la Malaisie a parlé pour la première fois d'un accident, ce qui a suscité un tollé des familles à la fois à Beijing et en Malaisie même. Un rapport final doit être publié cette semaine. Parmi les parents des victimes, Sarah Bashk, dont le partenaire Philip Wood a disparu. Les autorités ont été incapables de prouver quoi que ce soit, se plaint-elle. Elles ont évoqué un piratage aérien et maintenant, elles se rabattent sur la théorie d'un accident ? La majorité des passagers du vol MH370 étaient des Chinois. Leurs familles exigent toujours des réponses concrètes, d'autant qu'elles ont fait l'objet d'une surveillance accrue de la part des autorités chinoises. Jianghui, le fils d'un des passagers disparus, explique que les familles souhaitent visionner le film des caméras de sécurité montrant les passagers au moment où ils s'apprêtaient à entrer dans l'avion, ce que certains des parents des victimes malaisiennes du crash ont pu faire. « Nous voulons la vérité », insiste Steve Wong, dont la mère a disparu. Lorsque de telles choses arrivent, il faut intervenir. Imaginez-vous que je sois un Malaisien moyen. Si cela arrivait, j'aurais peur, affirme Steve Wong.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Le 3 mars, donc aujourd'hui, c'est la Journée mondiale de la vie sauvage, instituée par l'ONU en 2014, en référence à la Convention internationale sur le commerce des espèces menacées d'extinction. d'extinction qui a vu le jour, Morgan, le 3 mars 1973.
Et le thème cette année est la criminalité liée à la vie sauvage. Nathalie Barge a joint Juan Carlos Vasquez, chargé de communication de la CITES, qui a organisé un événement symbolique à l'aéroport de Genève.
Dans une économie globalisée, c'est par là que tous les marchandises et les personnes transitent. Donc on a fait un événement ce matin ici avec des experts scientifiques, des douaniers et des experts de l'industrie du luxe pour parler de comment protéger mieux ces espèces qui font objet d'un braconnage intense.
La Chine dernièrement a pris une décision, l'interdiction d'objets en ivoire sculpté. Est-ce que c'est un grand pas ou est-ce que c'est un petit pas symbolique? Parce que il y a pas mal d'ONG qui critiquent cette mesure, disant que bon, ça va pas très loin.
Écoutez, la Chine est devenue un marché très important. Après les États-Unis et l'Europe, c'est un marché d'une grande taille pour la consommation des espèces sauvages. Et puis, c'est le marché le plus important pour l'ivoire. Donc, toute mesure, pour symbolique qu'elle soit, a un impact assez considérable dans les pays qui fournissent cet ivoire. Et nous pensons que c'est un signe positif. Donc, c'est un pays qui fait beaucoup d'efforts. Toute la lutte du gouvernement actuel contre la corruption.
Justement, là est la question, parce que pour passer de l'ivoire aux frontières, ce n'est tout de même pas invisible, c'est relativement gros. Des cornes de rhinocéros, des défenses d'éléphants.
Alors justement, le sujet de cette journée de la vie sauvage, c'est la criminalité liée à la vie sauvage. Il nous faut utiliser les mêmes outils qu'on utilise pour combattre le trafic des drogues et le trafic des humains. Ces mafias ont un pouvoir corrupt important. C'est un des sujets majeurs qu'on essaie d'aborder aujourd'hui. Comment ce problème affecte aussi les moyens de subsistance des communautés rurales et aussi comme ça affecte tout simplement l'état des droits dans plusieurs pays. Il y a des groupes armés rebelles qui profitent de ce trafic aussi pour financer ces activités.
Quelles sont les régions les plus touchées en Afrique par ce commerce illégal ?
L'ivoire sort beaucoup par Kenya, le port de Mombasa, c'est un des problèmes principaux. L'Afrique centrale est victime et elle souffre énormément de ce problème. C'est la région la plus touchée. Comme j'ai dit, l'Afrique de l'Est, donc on continue à avoir un déclin des populations des éléphants d'Afrique.
Et les rhinocéros, monsieur Vasquez?
Les rhinocéros sont principalement braconnés et tués en Afrique du Sud. Les Kruger National Park, les victimes de ces braconniers qui sont aussi très organisés qui alimentent des circuits internationaux. Ils passent souvent par Mozambique. C'est là qui est important, la coopération internationale, les résultats qu'on attend aussi de cette journée.
Voilà, c'était Juan Carlos Vasquez de la Convention internationale sur le commerce des espèces menacées d'extinction.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace out.
En résumé, quelques grands points de l'actualité, Morgane.
Côte d'Ivoire, 10 ans de prison requis pour Simone Gbagbo, épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo, jugée pour atteinte à la sûreté de l'État.
Boko Haram semble perdre du terrain dans le nord-est du Nigeria. Une ville a été reconquise par les soldats tchadiens.
La Guinée, la Sierra Leone et le Liberia réclament un plan Marshall pour aider leur pays à se redresser après l'épidémie d'Ebola.
Au Congrès américain, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dit non à l'accord nucléaire en négociation actuellement avec l'Iran. Et à nouveau, nous saluons nos amis de Dakar au Sénégal qui nous écoutent sur 102 FM, la fréquence de VOA Afrique à Dakar.
À la mise en onde ce soir, Lionel Gaïma, Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil à la présentation.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Ouagadougou,
sur 102.4 FM. À Douala, Radio Balafon. Raga FM, Kisangani. À Zinde, Niger, Enfani FM. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA.